Alors, aujourd'hui, l'idée, c'est de poursuivre sur la dynamique engagée depuis hier, sur une approche qui continue d'être plutôt sociologique, même si elle est plus micro-sociologique, mais qui s'inscrit dans cette mouvance, qui cherche à comprendre les raison d'une disqualification symbolique des enfants de milieu populaire devant l'école, qui sont des phénomènes récurrents et que ESCOL, dans la continuité des travaux de la sociologie lourde, à côté d'autres travaux de recherche, s'est intéressé à plutôt des approches microsociologiques, c'est-à-dire de comprendre qu'est-ce qui pouvait bien permettre la construction ou la reconstruction des habitus, à la fois dans ce qui pouvait influer sur la façon de penser l'école, les objets, les modes d'apprentissage du côté des élèves, donc se pencher sur les effets de la socialisation familiale, mais aussi, avec les travaux plus récents du réseau RESEDA, comprendre ce qui, dans l'école aussi, pouvait, soit mes estimants ou méconnaissant ces travaux, ou fonctionnant sur un certain nombre de préjugés, pouvait infléchir et participer à la différenciation. Alors aujourd'hui, l'idée c'est d'avoir un petit temps d'abord sur que nous disent les travaux de sociologie sur la façon dont les parents appréhendent l'école, et puis ensuite de vous proposer dans un deuxième temps quelque chose qui est de l'ordre d'une sorte d'animation autour de la thématique des parents, comment les engager, les réhabiliter dans leur rôle et dans leur potentialité éducative. Je crois qu'hier, vous avez évoqué le fort sentiment d'autodévalorisation. Ça, on peut, tous les travaux nous le confirment. Donc, comment est-ce qu'on peut réamorcer la pompe, renverser le stigmate, on pourrait dire. Et puis, nous poursuivons cet après-midi sur les incidences des caractéristiques de la socialisation familiale. Et on ouvrira sur des ateliers pour essayer d'avancer sur des éléments stratégiques et pratiques sur cette question du travail avec les parents. Donc, premier temps, s'efforcer de comprendre la logique des acteurs. Ça semble toujours nécessaire, tant les bonnes volontés des uns et des autres, de part et d'autre de la scène scolaire, s'échouent souvent autour de malentendus, de jugements a priori. Chacun veut bien faire, mais voulant bien faire et agissant dans des logiques différentes, on aboutit à des crispations qu'il faut essayer de dénouer. S'efforcer de comprendre la logique des parents, donc là j'évoquerai ce matin dans leur façon d'appréhender l'école, dans leur façon d'appréhender les savoirs qui y sont enseignés, ce qui a valeur pour eux, mais aussi j'évoquerai rapidement la question des pratiques culturelles, puisque on pourrait dire que l'habitus c'est rien moins que des leçons sans leçons que l'enfant apprend dans les interactions et les expériences avec ses proches depuis qu'il est tout petit et qui participe à construire une sorte d'univers mental qui constitue une sorte de grille avec laquelle il va se confronter aux exigences scolaires. Donc façon d'appréhender l'école, façon d'appréhender les savoirs, les pratiques notamment autour de l'écrit et la façon qu'ont les parents d'envisager le suivi scolaire des enfants. Alors, sans doute, ça a été précisé hier, il y a 36 manières d'être parent, et l'AIR a montré à travers tableau de famille combien la façon de penser l'école, d'y préparer l'enfant, pouvait être à milieu semblable, notoirement différent. Donc, ce que je vous propose là, c'est tout sauf un discours qui ferait une sorte de plaquage autour de tous les parents de milieux populaires font comme ceci, mais les travaux ont pour objet de dégager seulement des lignes forces qui viennent avec suffisamment de récurrence pour nous aider à construire des outils de pensée. Les attentes à l'égard de l'école. Je m'appuie là, parce que j'aime bien citer mes sources, bien sûr sur les travaux d'Escol, mais aussi assez largement sur les travaux de Daniel Tain, qui travaille sur Lyon, qui a pas mal travaillé sur le rapport aux familles, et dont les travaux me semblent, avec ceux de Pierre Perrier, éminemment intéressants à saisir, ressaisir. Les attentes à l'égard de l'école. On sait que les conditions de vie et la non-prévisibilité de l'avenir influent sur les aspirations des parents. Et quand demain n'est pas sûr, mieux vaut tenir que courir. Ce qui caractérise les parents, ce sont des attentes pratiques. Ils espèrent, grâce à l'école, que leurs enfants vont s'en sortir. Être capable de se débrouiller dans la vie de tous les jours, remplir ses papiers, ne pas être perdu devant la complexité des démarches administratives, pouvoir être dans le bain au niveau de l'évolution des techniques, des moyens de communication, être autonome. Autrement dit, leurs attentes ne sont pas l'ordre de l'ascension sociale, même si, on va y revenir, on peut y rêver, mais d'abord de la maîtrise de ce que la vie impose quotidiennement. Ce sont des attentes pratiques. Des attentes pratiques, et ils sont critiques à l'égard de l'école qui leur semble transmettre de manière abstraite des savoirs de plus en plus abstraits et dont les finalités sont de moins en moins saisissables à court terme. Au niveau des aspirations, dans cette logique, leurs ambitions sont réalistes, on pourrait dire. Des études longues, bien sûr qu'ils en rêvent, bien sûr que c'est séduisant, mais c'est aléatoire. C'est aléatoire vu l'histoire familiale. C'est aléatoire parce que ça exigerait que l'enfant aille vers des études dont on ne voit pas bien le terme, dont on saisit de moins en moins la configuration des métiers à venir, avec tout ce que ça présuppose si l'enfant doit aller poursuivre ses études longues dans un autre endroit. Vous voyez les coûts en matière de logement, etc. Et tout ça rend les choses difficiles. Donc ils ont une hésitation, ces parents, entre le rêve difficile à atteindre et une réalité beaucoup plus tangible et plus accessible. Ce qui revient assez fréquemment comme expression lorsqu'on parle avec les parents, c'est leur attente que leur enfant ait, comme ils disent, quelque chose dans les mains. Et ces termes-là, il faut les prendre dans leur force. À travers l'école, il s'agit d'abord de sortir de la précarité et de la vulnérabilité. Ce n'est possible qu'à la condition d'avoir un bon métier. Et voilà ce que me dit un parent d'élève de cours préparatoire, qu'ils aient un bon métier dans les mains. Si on n'a rien dans les mains, ils insistent, un père qui me raconte qu'il a dit à sa fille qui lui a signifié son désir plus tard d'être médecin. Il lui dit « Médecin, oh, c'est difficile pour toi. On verra ça après, mais je pense pas. Pour moi, elle fera le métier plus tard. » Et derrière le métier, c'est le métier manuel. Parfois même, l'avenir est impensable. Un père qui me dit, lui qui a des horaires, il bosse les 3-8, il a ses horaires seulement 3 jours avant. Et il dit à ses enfants, quoi leur dire, je sais plus à force. J'ose pas leur parler de l'avenir, tellement il est incertain. S'il faut travailler à l'école, c'est pour ne pas être comme ses parents. Et je reprends la belle formule de Daniel Tain, qui dit bien toute l'ambiguïté, sur laquelle on reviendra. Un discours qui transmet aux enfants l'idée de l'indignité de la vie des parents en même temps que ses difficultés. Et du coup, on voit l'influence de la précarité sociale sur le contenu et le caractère des initiations. Les gens qui me disent ça sont des ouvriers sans qualification, dont certains sont au chômage. Fragilité face à l'avenir, intériorisation du destin social, tout autant que réalité des conditions de vie, pèse lourd pour l'enfant qui entre à la grande école. On pense aux travaux de Bourdieu sur l'habitus généré depuis la socialisation familiale, système de valeurs, de dispositions et d'attitudes à l'égard de l'école, à l'égard des contenus qu'on y enseigne et de la langue qu'on y parle. Cet habitus structure aussi le rapport à l'avenir. L'expérience ou l'anticipation des limites favorise l'auto-exclusion comme intériorisation des probabilités objectives en espérance subjective. Je vous le refais. Merci. Intériorisation des probabilités objectives en espérance subjective. Dit autrement, qu'est-il raisonnable de penser pour des gens comme nous ? Comme me dit une maman, j'aimerais tellement que ma fille fasse un beau métier comme médecin, notaire, avocat. Mais elle ajoute, faut pas rêver, mais faut pas rêver. Hein? Donc on a là souvent dans les discours parentaux une sorte de plafond de verre qui limite les aspirations et les rêves en matière d'attente à l'égard de la scolarité. Le flou des objectifs est aussi une caractéristique des parents qui, bien qu'ils escomptent des études générales de plus en plus au-delà du collège, sont dans le flou des objectifs et des perspectives. Lorsqu'on leur pose la question « Jusqu'où pensez-vous ou attendez-vous que votre enfant arrive ?» on a des formules autour de « j'espère qu'il va aller le plus loin possible, mais encore jusqu'au bout, aussi loin qu'il pourra. » Ils ont du mal à envisager des formations précises, manque d'assurance quant à l'avenir des enfants. Et on voit bien que quand d'autres familles, quand l'enfant commence à avoir des fragilités, continue de ne pas douter sur ses capacités à rebondir et à prolonger un peu plus leurs études, ces parents qui sont prêts à lâcher prise, tant c'est quelque chose qui vient confirmer leur propre expérience de l'école. Je reprends une belle parole de Daniel Tin, on a le sentiment que si le meilleur est souhaité pour les enfants, il n'est jamais sûr, mais le pire est toujours possible. On y ajouterait peut-être parfois le sentiment d'ambivalence. Sentiment d'ambivalence, on sait qu'il y a problème pour les enfants quand les attentes ne sont pas signifiées à l'enfant. À force de ne pas vouloir parler de préjugés sur l'avenir, les enfants peuvent interpréter cela comme du désintérêt à l'égard de leur scolarité. Problème aussi quand elles sont ambivalentes. Et c'est pas rare qu'elles soient ambivalentes. Telle la maman de Vincent qui m'explique « Moi j'ai toujours aimé l'école ». Elle est infirmière dans un lycée professionnel et son mari est cuisinier dans le même établissement. « Moi, j'ai toujours aimé l'école, dit-elle, mais s'il n'y avait que mon mari, Vincent, il n'irait pas à l'école. Pour lui, pour mon mari, ça ne sert à rien, l'école. » Et on voit bien comment l'enfant est tiraillé entre deux missions contradictoires. Donc la question pour lui, c'est que choisir ? Et quand on suit Vincent, on s'aperçoit que ses progrès sont en dents de scie, avec des remontées, des chutes, comme s'il y avait quelque chose de l'ordre de l'impossible dans la réalisation de plus. Un peu plus de 10 ans après, J'ai eu l'occasion de revoir la maman et deviner ce que Vincent fait comme formation. Cuisinier, vous avez gagné. Comme quoi cette histoire de référence identitaire et de mission parentale ne pèse pas pour rien dans les devenirs des individus. Et en éducation prioritaire, on note fréquemment, chez les parents interrogés, des sentiments mêlés d'insatisfaction de leur situation actuelle et de fierté de leur culture d'origine. Et donc, ils oscillent entre deux attitudes. Encourager leurs enfants à ne pas faire comme eux, mais en même temps les inciter à les imiter et être fiers d'eux, hein, et à les dépasser. Double tension, injonction contradictoire. Je crois qu'hier, quelqu'un vous a parlé de la triple autorisation, concept développé par Jean-Yves Rochex, qui me semble éminemment opératoire, notamment au moment de l'adolescence, où les jeunes sont dans l'élaboration identitaire, la critique des modèles adultes, mais en même temps, le moment de réalisation de soi et de choix, c'est-à-dire qui est-ce que je décide de devenir en fonction de mon histoire socio-familiale. Le rapport au savoir scolaire, qu'est-ce qui a valeur ou pas aux yeux des parents? Les travaux semblent confirmer un rapport instrumental à l'école. Chaque moment de la vie scolaire est appréhendé selon la logique de l'efficacité. Et toutes les activités qui sont des choses à côté des apprentissages fondamentaux apparaissent plus ou moins suspects. Les arts plastiques, les sorties, classes vertes, etc. Les parents de milieu populaire ont tendance, jugent ça un peu avec la distance, d'un air de dire, mais ça, à la limite, ils peuvent le faire avec pendant les vacances ou avec le centre de loisirs. Qu'est-ce que l'école perd son temps avec ces choses-là? C'est de la perte de temps, c'est inutile. Alors ça vaut aussi, on le sait, pour le périscolaire. Les études surveillées sont disqualifiées si les devoirs ne sont pas faits. Et pour ces familles, l'école doit transmettre les savoirs utiles, tous les savoirs utiles et plutôt que les savoirs utiles. Primauté du lire, écrire, compter, que l'on retrouve dans les propos des élèves lorsqu'ils évoquent, on leur demande d'évoquer leurs attentes à l'égard de l'école, ils nous citent le lire, écrire, compter. Et jusqu'au lycée professionnel, le travail de Bernard Charlot en 1999 sur le rapport au savoir en lycée professionnel confirme que un certain nombre d'élèves continuent de citer le lire, écrire, compter, y compris à ce degré-là de la scolarité. Deuxième élément pour apprendre, c'est la logique de travail qui prévaut. Pour les familles populaires, l'acquisition de connaissances est conçue comme addition de savoir, comme stock à constituer plutôt que comme maîtrise de processus ou capacité à raisonner. Et donc, si le savoir est conçu comme objet à recevoir, stocker, mémoriser, ça dit des choses implicitement sur les modalités pour se les approprier. Si on est dans un tel rapport au savoir, pour apprendre, il suffit d'écouter et de travailler. Écouter, travailler. On y reviendra sans doute cet après-midi. C'est ce que nous disent beaucoup des élèves interrogés quant à ce qu'ils pensent devoir faire à l'école. Écouter, travailler et mémoriser. Ça vient en phase avec cette conception du savoir comme élément, objet extérieur à soi. Les parents réclament davantage de travail à l'école, du sérieux. Et vous savez que l'enseignant qui s'amuse à ne pas donner de devoirs est plutôt considéré comme un enseignant peu fiable. De même, si les enfants reviennent à l'école en ayant le sourire et en ayant plutôt renvoyant qu'ils se sont bien amusés, voire jubilés d'apprendre, c'est plutôt suspect. Ainsi, ce père africain qui vient me voir un samedi matin, qui m'explique que, bien qu'il ait dit à sa fille, on est au CP, que elle pouvait rester à la maison le samedi matin, sa fille veut aller à l'école. Et il m'explique, elle y va en courant. Et je sens bien que dans la façon dont il l'exprime, ça a quelque chose de suspect, puisqu'il ajoute « Chez nous, pour aller à l'école, ils y vont avec la chicotte. » Donc, l'idée que l'apprentissage puisse être du côté du plaisir et de la jubilation n'est pas une idée si partagée que ça. Des demandes de travail, de devoirs à la maison, et dans cette logique, on a aussi beaucoup de discours de dévalorisation du jeu et de l'école maternelle. Les parents ont plébiscité ce qui s'est passé dans la période antérieure et n'arrêtaient pas de dire « Mais qu'est-ce qu'il nous parle de jeu à l'école maternelle ? Il ferait bien mieux d'apprendre les lettres et les sons, qu'on ne perde pas de temps. » Les pré-apprentissages. Quand il y a des pré-apprentissages, ils sont plutôt penser en termes de prérequis instrumentaux, initiation à l'écrit, au calcul, comme ça les parents, je lui ai appris à compter jusqu'à 10, je lui ai appris les lettres, je lui ai appris les règlements de la combinatoire, etc. Plutôt de ce côté-là, plus que de l'acculturation. On apprend plus volontiers les règlements de la combinatoire qu'on ne lit de livres. On y reviendra. Et le plus souvent par sentiment d'incapacité ou par peur de mal faire, ou encore parce qu'on pense que ça appartient aux prérogatives de l'école, on préfère laisser tout ça à l'école. Et il n'est pas rare que les parents nous expliquent « Moi, je m'occupe de l'éducation des enfants et votre boulot à vous, c'est de leur apprendre à lire, écrire, à compter. » Alors, sur cette question du rapport au savoir scolaire, il me semblait intéressant de faire un petit point d'arrêt sur le rapport à l'écrit et à la lecture. Rapport à l'écrit et à la lecture. Autrement dit, ce qui fait le son sans qu'il y ait le son. Tant on sait que le spectacle que les enfants ont sous les yeux autour d'eux, la façon dont les adultes appréhendent ce rapport à l'écrit, compte pour eux et va sans doute être déterminant dans leur rapport à l'écrit. Alors ce qui frappe d'abord, c'est quand on interroge les enfants sur « lire pour toi ça sert à quoi ?» et « tes parents, les grands, ça leur sert à quoi ?» Moi, j'ai eu des propos d'enfants qui me disent « Papa, il lit jamais. Papa, il lit jamais. Peut-être au boulot, me dit un gamin. Maman, elle n'a pas de livre. » Et donc, ils nous renvoient souvent des discours comme si l'écrit était invisible, pas utilisé à la maison. Et la question, c'est est-ce que ça devrait alimenter des logiques de handicap socioculturel ? Eh bien, les travaux de sociologie nous invitent à la prudence interprétative. Nous invitent à la prudence parce que les pratiques du lire-écrire peuvent être invisibles tant elles sont indissociables du contexte et des situations où elles s'imposent. Bien entendu qu'on note l'heure du rendez-vous chez le médecin, on cherche l'heure de l'émission qui intéresse, on cherche la promotion intéressante sur le journal qu'on reçoit à la maison, on repère le nombre de points sur le tricot, on passe des commandes sur Internet, etc. Mais on ne lit pas. du point de vue des parents. Incorporé à une situation spécifique qui la légitime et tendue vers un objectif précis, la lecture est une pratique qui s'ignore comme telle. Et là, Bourdieu explique ça bien. Il dit, ça c'est parce que l'école a appris ce qui est légitime ou pas en tant qu'activité de lecture. Lire, c'est lire un vrai livre. Et un vrai livre, c'est pas un manuel d'électricité ou le catalogue de la Redoute. Un vrai livre, c'est un roman à lire du début jusqu'à la fin. Et donc, les parents sont dans le déni, en quelque sorte, de ces activités de lecture et d'écriture, qui sont pourtant des pratiques sociales, effectives et fonctionnelles. Et là, du coup, on peut mieux comprendre que des enfants ne puissent pas voir ce qui est, y compris, dénié par leurs parents. Des pratiques invisibles. Ça donne déjà quelques idées sur, si ces pratiques sont invisibles, ce qui serait intéressant, c'est de prendre appui sur ça et essayer justement de lever le malentendu sur ce point-là. Moi, j'avais dans un travail réalisé à l'occasion de la thèse, dans les classes que je faisais, c'est demander aux enfants de faire un inventaire de tous les écrits qu'ils avaient chez eux, en demandant d'associer leurs parents à ce relevé-là et de discuter avec eux sur à quoi servent ces écrits. Évidemment, le relevé était assez considérable. Les enfants, au bout d'une semaine, s'apercevaient que à chaque pièce avait son affiche avec une foultitude d'écrits que les enfants n'avaient pas perçus d'emblée. Mais au moment des réunions de parents, ça peut être aussi intéressant de renvoyer toutes ces activités de lecture et d'écriture qui sont quand même des beaux points d'appui pour ensuite éventuellement élargir, mais au moins déjà les reconnaître. Deuxième problème avec la lecture, c'est que en tant que pratique culturelle, tout ce qui tourne autour de la langue touche aussi simultanément à la question de l'identité. C'est long, ça prend du temps, ça sert à rien, c'est ennuyeux. Voilà le propos de quelques élèves à propos de la lecture. Et ces propos des élèves, ça interroge l'évidence pour les lettrés et pour leurs enseignants, l'évidence de la lecture, que notre Bourdieu, quand il dit, en fait, on finit par oublier que dans beaucoup de milieux, on ne peut pas parler de lecture sans avoir l'air prétentieux. Et que pour lire, il faut avoir du temps à ne rien faire. Or, il y a des gens qui disent avoir bien d'autres choses à faire avant de lire. C'est des trucs de gonzesse. C'est pas moi qui dis ça, je ne fais que rapporter le propos d'un élève et que note Serge Boismard, qu'analyse Bernard Lahire en disant la lecture c'est une pratique culturelle qui est perçue comme une activité d'intérieur. Pour lire, il faut s'arrêter de bouger, il faut stopper ses activités, au moins pour un temps, il faut quelque part s'isoler de ce qui est en train de se faire autour de soi. Or, les hommes, poursuit-il, déclarent souvent qu'ils n'ont pas la patience de lire, qu'ils aiment bouger, qu'ils n'aiment pas rester assis à rien faire. Et poursuit l'activité de lecture, comme passive et solitaire, est sans doute perçue par nombre d'entre eux comme une activité féminine. Mais il rajoute, ce qui est pris pour de la passivité est en fait de l'attente patiente qui implique un contrôle des affects, une maîtrise de soi parfaitement incorporée. On pourrait bien avoir là une explication du pourquoi de la réussite insolente des filles à tous les niveaux de la scolarité. Donc, lire-écrire, une activité qui a ce coefficient-là. Le genre d'écrit privilégié. Ce que nous font mieux saisir les travaux à ce sujet, c'est que la place que chaque famille fait à l'écrit, au-delà de la fréquence d'usage, on s'aperçoit qu'il y a un rapport privilégié à certains genres Et cette fréquentation de certains genres, évidemment, est propice à construire un certain nombre de goûts culturels. Alors, en matière de loisirs, par exemple, les hommes sont plutôt du côté des activités extra-domestiques et physiques, comme je le disais, mais quand ils lisent, ils sont plus intéressés par des lectures courtes, feuilletées, d'informations, et plus réticents vis-à-vis des lectures longues de romans. Et ça, c'est pas inintéressant, parce que là encore, ça peut, dans les supports que l'on donne à travailler en classe, infléchir un certain nombre de choses. Comme cet élève de Sartrouville, de CE2, qui m'explique, à propos des lectures adultes, « Maman lit des choses qui font peur, comme l'ange de l'enfer, et je te tuerai de mes mains nues, ou des choses romantiques, comme à minuit dans le garage, l'amour d'un ange. » Oui, bon. Et papa, il lit des livres de 4x4, de portables et de DVD. Et je trouve que c'est une parole à ressaisir parce qu'elle est très archétype de la différenciation en matière de choix de lecture. Alors, en matière de genre d'écrit, qu'est-ce qui est préféré dans les milieux populaires? 45% des personnes interrogées déclarent ne lire aucun roman. Ça ne fait pas partie de leur temps libre. Alors, c'est le cas des personnes âgées, analphabètes, mais aussi d'une partie des hommes jeunes qui ont connu un échec scolaire. Peu d'adultes de milieu populaire sont amateurs de littérature classique, poésie, théâtre, à peu près 20%. Un peu plus vont du côté des romans policiers ou de science-fiction, à peu près 40%, des genres biographiques ou autobiographiques. Et ils apprécient davantage les documentaires sur la nature, les animaux, et consultent fréquemment encyclopédies et dictionnaires. L'intéressant, c'est que, à travers tout ça, les travaux semblent montrer qu'il y a un rejet, en tendance, un rejet du fictif, des histoires qui n'ont pas de sens, ou dont le sujet est trop éloigné d'eux pour les intéresser vraiment. Et les propos sont récurrents sur le goût des histoires vraies, réelles, terre à terre, qui parlent de mon univers, de mon passé, de là où j'ai vécu, hein, en tout cas qui ont quelque chose qui fait résonance avec les histoires personnelles, qui sont vraies, qui sont écrites comme si elles étaient vraies. Et là encore, je trouve que ça peut nous donner quelques indications sur quel type d'écrit sont privilégiés à l'école, et on s'aperçoit que quand on travaille ça avec des enseignants, on est souvent sur des critères esthétiques, mais dont l'écho ou la résonance ne sont pas toujours en phase avec, en tout cas, les zones d'intérêt d'un certain nombre d'enfants. Encore une fois, ce n'est pas pour y réduire les propositions de support culturel, mais il me semble que, dans une stratégie éducative, on aurait intérêt à connaître, reconnaître ces tendances-là pour pouvoir en faire des tremplins à partir desquels on pourrait ensuite élargir à d'autres supports et usages. Donc, goût pour le pratique, hein, goût pour tout ce qui touche, tout ce qui fait écho à des schémas d'une expérience passée ou présente. Autre pièce qui peut aider à comprendre le rapport à l'écrit, les lectures partagées. On sait que l'habitude de lire des histoires aux enfants n'est pas également usitée par les uns et par les autres. Il y avait eu une étude franco-allemande auprès de plus de 300 enfants d'âge préscolaire et qui avait montré une diversité de pratiques familiales en matière d'initiation à l'écrit. Et on avait essayé de suivre ce que ça avait comme incidence sur le moyen-long terme à un moment où l'enfant va se confronter à des apprentissages systématique. Et on voit bien qu'il y en a des parents qui proposent des lectures de livres, ce sont pourtant des catégories moyennes et supérieures, mais aussi font des initiations précoces au lire ou à l'écrire. Quand d'autres parents sont plutôt du côté d'initiation autour du code, hein, l'apprentissage des lettres et du code, estimant le livre secondaire. Et cette tendance-là est plus forte du côté des parents de milieu populaire. Ces parents ont du mal à saisir l'importance de cette expérience culturelle précoce. Soit ils délèguent ces apprentissages au périscolaire, par peur de ne pas savoir ou de mal faire, ou sinon c'est une tendance à être plutôt dans une conception très instrumentale des préapprentissages. Les échanges autour des livres sont assez rares. Et pour avoir interrogé des parents sur Saint-Denis, parce que je suis aussi les clubs coup de pouce d'accompagnement à la scolarité, on avait interrogé les parents sur « Que pensez-vous de cette pratique qui consiste à lire des livres aux enfants avant qu'ils sachent lire ?» Alors certains ont produit des réponses de conformité, disent « Oui, ça c'est bien », d'autres ont dit « Ça sert à rien, c'est prématuré ». C'est prématuré parce que certains parents m'ont dit parce que il est trop petit pour comprendre. Ou tant qu'il ne sait pas lire, on lui achètera pas de livre. Hein, ça sera la récompense après. Vous voyez la logique inverse des parents de. Hein, pour les uns, c'est, il faut apprendre à lire, puis ça sera. Et pour les autres, on a là aussi une zone de malentendu assez importante. Et qui confirme ce qu'on a déjà comme expérience sensible, quand on propose, je me souviens, on faisait de la promotion de la littérature jeunesse, et c'est des propos de parents que j'ai souvent entendus, on lui achètera un livre quand il saura lire. Alors les incidences de ces initiations différentes, les enfants peu initiés au livre et qui ignorent les principales fonctions de l'écrit ont des scores en lecture et un niveau de conceptualisation de l'écrit notoirement plus faible que d'autres. Là, ça désigne encore un chantier. Troisième volet sur les modalités de suivi scolaire. Faute de pouvoir apprécier l'évolution des connaissances et la maîtrise des savoirs scolaires, les parents des familles populaires font surtout attention aux résultats. Résultats mesurés par les notes, le livret scolaire, qui sont les seuls repères. Au risque du coup d'accorder plus d'importance aux notes qu'à la maîtrise des connaissances qu'elles sont censées évaluer. Prenez les caractéristiques, l'un va avoir son carnet de notes affiché, je vous dis ça parce que c'est des scénarios qui m'ont été racontés, au-dessus de son lit, comme marque du stigmate, quand les autres à la réception de la note, vont avoir des échanges avec leurs parents autour de « qu'est-ce que tu as pas compris ?» Et évidemment, on voit que ça renvoie à des choses complètement différentes. Il y a comme une équivalence entre mauvaise note et manque de travail. Les notes, en quelque sorte, seraient perçues comme une récompense, un salaire du travail fourni. Salaire du travail fourni. Or, on sait qu'en matière scolaire, il n'est pas rare de voir son travail pas être récompensé à la hauteur qu'on le souhaite, parce qu'évidemment, il ne suffit pas qu'il y ait travail, encore faut-il qu'il soit pertinent, qu'il réponde à un certain nombre de critères. Et plus on monte dans les degrés scolaires, plus on a la recherche de pertinence du travail, et plus il peut y avoir décrochage entre le temps que j'ai mis, l'investissement que j'ai mis dans un travail, et la sanction au niveau de la note. Si vous n'avez pas assez de repères sur les critères d'évaluation du travail, vous pouvez très bien percevoir la note comme une sanction à votre égard, plus qu'à l'égard du travail que vous menez. Vous voyez tout. Équivalence notre travail avec, en tendance, une logique de récompense et de sanction, voire correction physique. Mais, analyse des sociologues, en punissant, en corrigeant ou en promettant des récompenses, et qu'est-ce que j'en ai entendu des « si tu ne sais pas encore à Noël le jouet » ou « voilà, c'est accroché à la récompense ». Quand on fait comme ça, on agit de l'extérieur. On agit de l'extérieur dans d'autres familles, on a plus le souci de construire de dispositions de au travail et à l'étude. Et construire des dispositions au travail et à l'étude par une action continue sur les apprentissages scolaires plutôt que sur des réactions ponctuelles. Autrement dit, les punitions et les sanctions, à la fois, elles signifient quand même que les parents suivent leur enfant, ils portent l'intérêt, mais sont des solutions à court terme, immédiates et très contextualisées, qui sont d'ailleurs en phase avec le rapport à l'autorité tel qu'il se construit, quand dans d'autres familles, c'est un travail d'interaction continue et durable qui va plutôt dans le sens d'une responsabilisation et d'une autonomie progressive de l'enfant à l'égard de son travail scolaire. Modalité d'accompagnement, deux tendances fortes. Pour des parents qui ont été très peu scolarisés, s'intéresser à la scolarité, c'est bien difficile, tant il manque les outils nécessaires, non seulement pour aider les enfants, mais aussi pour les aider à comprendre le sens de ce que les enfants font à l'école et pour l'école. Et donc, du coup, on a pour les uns le suivi distant. C'est le lot des parents les plus éloignés de l'univers scolaire. Et par manque de temps, et les conditions d'existence à ce niveau-là, les horaires de travail, le nombre d'enfants, tout ça, évidemment, pèse. Ça s'ajoute à la faible maîtrise des savoirs et des attendus scolaires. Et on a pas mal de parents qui ont le sentiment d'être hors-jeu et qui évitent d'intervenir par peur de nuire. Si en plus ils s'entendent dire à l'école que ce qu'ils ont fait, c'est pas comme ça qu'il fallait faire, ça va les confirmer dans. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils sont soucieux d'assurer des conditions correctes d'existence aux enfants et essayent de mobiliser des aides extérieures. Alors ça peut être des personnes, les réseaux d'une famille élargie, ça peut être les aînés, ça peut être des dispositifs d'entraide scolaire. Ça peut être ça, ça peut être aussi essayer d'aider en réalisant des achats de matériel éducatif, qui est parfois très coûteux, dictionnaire, encyclopédie, ordinateur, etc. Mais les sociologues qui observent ça disent que c'est souvent un patrimoine culturel mort, comme les livres un peu sacralisés, car la possession d'instruments de savoir ou de culture est sans efficacité si elle n'est pas accompagnée de transmission de dispositions pour s'en servir et d'acquérir les savoirs qu'ils contiennent. Donc suivi distant d'un côté, et l'autre versant assez fréquent, c'est le surinvestissement, surscolarisation, toujours pour bien faire, des parents qui n'hésitent pas à en ajouter au travail donné à l'école. Je crois que c'est Cléopâtre Montandon de Genève qui avait montré que le temps de devoir du soir dans les milieux populaires, c'est dans les milieux populaires que c'était le plus long. Parfois les devoirs sont faits par les parents eux-mêmes pour que l'enfant soit en règle avec l'école, pour lui éviter d'être pénalisé. Et avec des parents qui sont tellement dans le contrôle de l'enfant que ils finissent, ces enfants, par ne plus faire leurs devoirs, comme ils disent, que si on est derrière. Que si on est derrière. Et quand on leur demande de dire comment ils s'y prennent, ils parlent en termes de surveillance, contrainte, contrôle. Or, quand vous êtes dans la surveillance, contrainte, contrôle, vous n'avez qu'une seule chose, vous essayez d'y échapper. Vous essayez de fonctionner en contrebande. Et donc du coup on essaye de liquider les devoirs, comme je dis, mais on les liquide à la mitraillette. On essaye d'instrumentaliser les adultes à son service C'est-à-dire que, confronté à des problèmes à résoudre et des exercices à faire, on essaye de faire cracher le morceau à l'accompagnateur ou aux parents qui est là. Autre élément caractéristique, logique de surinvestissement qui apparaît aussi dans les exigences que les parents imposent. Ils imposent des devoirs bien faits. Ce sont des réponses justes, mais aussi un travail propre, soigné, bien présenté. En référence à leur propre scolarité primaire, mais en même temps aux catégories de perception par lesquelles est jugé un travail dans l'univers professionnel qui est le leur. Et moi, je pense toujours à ces deux parents que j'interroge, qui m'expliquent qu'ils sont en formation d'auxiliaire de vie parce que, comme ils disent, ils n'ont rien foutu à l'école. Et donc, travaillent 2 heures le soir à la maison. Ils viennent d'arriver sur l'école, le petit Rémi est dans la classe de CP, sa grande sœur, m'explique les parents, a redoublé son CP et elle est passée enfin au CE1, mais elle ne sait toujours pas très bien lire. Et comme elle ne sait toujours pas très bien lire, les parents m'expliquent qu'ils les font travailler parallèlement à travail que eux font, 2 heures le soir. 2 heures le soir. Et je dis, ben, c'est bien, quoi. Et se sentant encouragé, le papa, je demande, mais qu'est-ce que vous leur faites faire? Et le papa m'explique, je les fais copier. Oui, très bien. Et alors, il est encouragé, il ajoute, et si c'est pas propre, je déchire la page, il recommence. Et bon. Et pourquoi je salue? Parce que je salue d'abord ce qu'ils sont en train de me dire comme intérêt qu'ils portent à la scolarité de leur enfant et à l'investissement qu'ils y mettent. Mais reconnaissant ça, ça me permet du coup, dans la foulée, d'intervenir pour leur dire peut-être que 1. C'est trop long. 2. C'est pas forcément ce qui va aider le plus l'enfant. 3. À 5 ans et demi, 6 ans, un enfant, il a fait 6 heures de classe et il est fatigué, etc. Et je comprends mieux pourquoi, observant le petit Rémi dans la classe, son corps est là, mais sa tête est ailleurs. Ce qui s'y ajoute, c'est une disqualification quelque part de l'école, une confusion des instances. Que vaut l'école si les parents font l'école à la maison ? Vous voyez ? Et je le comprends mieux à travers le discours parental, puisqu'il est si clair que les parents n'ont pas appris à l'école, mais seuls, et que la grande sœur n'a pas appris à l'école, mais plutôt en dehors de l'école. Et j'ai là la clé qui permet de comprendre le comportement de Rémi. Et du coup, je vois bien que le travail que je vais pouvoir faire avec les parents, c'est que je peux compter sur leur investissement. Il suffit juste ensuite qu'on s'entendent sur les modalités qui, de mon point de vue, seraient les plus propices à faire en sorte qu'ils décollent. Difficile d'éviter la question des devoirs. Je ne sais pas si vous l'avez évoqué hier. L'aide apportée aux parents, une enquête INSEE 2004, est en moyenne de 19 heures par mois. On était en 2004, hein, ça fait quand même 10 ans maintenant, donc il faudrait voir où on en est. 30 minutes de plus qu'au début des années 90. Aide plus importante en début de primaire, en primaire et en début de collège. En gros, de 14 heures au CP, 4 heures en première terminale, avec la mère qui, en général, consacre en moyenne plus du double du temps que le père, tous milieux sociaux confondus. Avec des différences selon les niveaux d'études. Suivi scolaire, c'est surtout l'affaire de la maman. On a là sans doute des siècles de distribution des tâches et des prérogatives familiales sur lesquelles il faut lutter. On voit les pères commencer d'intervenir plutôt au moment de collège, hein, collège et lycée. Et évidemment, ce qui fait la différence, c'est le niveau de scolarisation des parents. Plus même que leur statut social. Au-delà de ces éléments, on note un fréquent sentiment d'incompétence chez certains parents. Dès le primaire, 1 sur 5 a l'impression de ne pas avoir les connaissances nécessaires. Plus de la moitié des mères sans aucun diplôme se sentent dépassées dès l'école élémentaire, avec une difficulté à suivre les contenus scolaires au-delà des fondamentaux et avec un sentiment fréquent de décalage par rapport aux méthodes utilisées. Et là aussi, c'est un grand classique quand les parents nous expliquent que la soustraction, c'est pas comme ça qu'ils ont appris, que la lecture, c'est pas comme ça qu'ils ont appris. Et du coup, si on n'a pas nos occasions de rencontre, on peut s'apercevoir que les interventions parentales peuvent là encore mettre l'enfant sous double contrainte, en tout cas sur des incitations qui sont un peu en parallèle, en porte-à-faux avec ce que demande l'école, plaçant l'enfant dans une situation de tiraillement qu'il est difficile de gérer. Ce qu'on sait, c'est que prévaut souvent un modèle Troisième République en matière d'école dans les familles populaires. Et on voit bien l'aspiration à plus d'autorité, une vraie école, on voit bien la blouse grise et le sifflet derrière. Enfin, peut-être que le succès des émissions qu'on a vues ou des films un peu nostalgiques sur l'école d'antan rebondit sur tout ça. Une école plus tournée vers la mémorisation que vers la compréhension. Et là encore, c'est toute une évolution de l'école qui a été pendant assez longtemps effectivement tournée vers la mémorisation, réservant la compréhension à ceux qui se destinaient dans les classes de petits lycées aux études longues et réservant un savoir lire écrire minimal pour les autres. Donc, des modalités d'accompagnement qui peuvent être contre-productives, qui oscillent entre t'as fait tes devoirs, oui c'est bien, confiance exagérée, et travail en plus, voire harcèlement avec un enfant qui est vraiment marqué à la culotte pour faire son travail, qui va chercher à s'en échapper comme il le peut. Qui est aidé ? Une enquête des étudiants de la FEV en 2009, auprès de 400 élèves accompagnés dans leur scolarité. 61% des élèves déclarent que leurs parents leur demandent tous les jours s'ils ont des leçons ou des devoirs à faire. 28% leur demandent quelques fois et 12% jamais. Alors, si on additionne les deux, ça fait près de 40% d'enfants qui n'ont pas d'adultes qui leur demandent s'ils ont fait leur travail, qu'ils doivent se débrouiller seuls. Pour autant, ces parents ne se sentent pas armés pour aider leurs enfants à les faire. On peut demander est-ce que tu as fait des devoirs, mais sans pour autant y mettre la main. 24% affirment être souvent aidés, 35% parfois, 41% disent être rarement, voire jamais aidés par leurs parents. 41%, 4 sur 10. Taux qui augmente à 49% au moment du collège. Un élève sur deux se débrouille seul en matière de travail scolaire. Toutes les recherches le confirment, c'est pas par désintérêt à l'égard de l'école qui est toujours perçu, et de plus en plus, comme moyen de s'en sortir. Plusieurs facteurs pourraient l'expliquer, le blocage vis-à-vis d'une institution scolaire perçue comme territoire étranger et défendu. Alors, évidemment, avec les mesures de sécurité et plan Vigipirate, ça ne nous a pas arrangé les choses, puisqu'ils étaient sommés de rester de l'autre côté des grilles. Et le fait aussi que ses parents, eux-mêmes disqualifiés par l'école, ont du mal à se penser comme des éléments clés pour la réussite de leurs enfants. Et j'en arrive à mon dernier volet. Ce qui frappe, et je crois que ça rebondit sur ce que vous avez déjà évoqué hier, c'est le sentiment très fort d'auto-dévalorisation de leur capacité, de leur potentialité éducative, qui les amène donc à déléguer. La rencontre avec les enseignants, c'est toujours difficile. C'est d'autant plus difficile que les parents ne sont appelés que quand il y a des difficultés scolaires ou des comportements réprouvés. Le discours latent et parfois explicite, c'est que les pratiques familiales et les modes de vie sont mis en cause, ou qu'on sent mis en cause. Être convoqué, c'est le signe d'un problème, d'une conduite répréhensible. Et ses parents ont le sentiment d'être suspectés, désignés comme responsables des problèmes qui leur échappent. Ils ont une image de non-conformité, d'illégitimité de leur pratique. Et comme ils disent, on se sent sur la sellette. Sentiment d'indignité et de culpabilité. Comme me raconte un parent, vous savez, quand il faut que j'entre dans la cour de l'école, je prends sur moi. Je vois la grappe des enseignants au milieu de la cour. Quand je pousse la grille, je rentre et je sens les regards de haut en bas sur moi. Et c'est coûteux pour moi. Alors après, dans ce qui se dit dans la rencontre, c'est pas simple. C'est pas simple. Sentiment d'infériorité au niveau du statut social. Les interactions sont dissymétriques et inégales. Sur le plan institutionnel, c'est le maître, la maîtresse. Culturel, il parle avec des grands mots et langagier, des mots que je ne comprends pas toujours. Qu'est-ce qui s'échange là ? Moi, je vois bien dans les réunions de parents, avec des enseignants qui parfois, pour asseoir leur autorité, leur légitimité, emploient des mots qui parfois sont des mots de métier, des mots de professionnel, des mots qu'on s'échange entre nous, mais qui échappent aux parents. Et tout ça, c'est des occasions d'échange symbolique d'autorité, de reconnaissance ou de dénégation de l'autre. Et, disent les parents, ça fait ressurgir des souvenirs douloureux. Je m'y revois, comme ils disent, je m'y revois. Votre enfant est agité, en difficulté. Les mots sont retournés avec le sentiment, disent les parents, de revivre leur propre scolarité. Pour certains parents, il faut rester à sa place, ne pas se mettre en avant. Et s'ils ne viennent pas à l'école, c'est parce qu'ils estiment que ce serait venir plaider un traitement de faveur pour leur enfant. Or, ils attendent de l'école qu'elle soit égale pour tous. Donc, venir, ça s'apparente à une démarche de sollicitation d'avantage ou de faveur, et ils n'en veulent pas. Sentiment d'infériorité encore, par rapport au niveau d'instruction, au niveau du rapport au langage. Sentiment d'infériorité, où les parents disent essayer de cacher et ressentir le manque d'instruction. Certains parents même craignent qu'en venant à l'école, ce soit plutôt une mauvaise chose pour leur enfant. La façon dont ils sont habillés, la façon dont ils parlent, pourrait renforcer, c'est ce qu'ils perçoivent, la perception négative des enseignants à l'égard de leur enfant. Et d'ailleurs, c'est pas si rare que des enfants soient pas très chauds pour que leurs parents viennent à l'école. Je cite Daniel Tin, « De la même manière qu'il existe des formes d'autocensure dans les échanges langagiers, l'évitement de l'école par les parents, leur non-participation aux réunions, leur silence sont des anticipations des sanctions menaçant leur présence, leur langage, leur pratique, leur être sur le terrain de l'école. Peut-être que leur absence de l'école, c'est de l'intérêt bien compris. De l'intérêt bien compris. Enfin, en faire trop ou pas assez ? Les parents de milieu populaire sont, dans la rencontre avec l'école, confrontés à des normes, des logiques dominantes dont la maîtrise leur échappe. Ils ont bien perçu les enjeux de l'école, mais ils ont plus de mal à percevoir la manière adéquate de jouer le jeu. La manière adéquate de jouer le jeu. Pourquoi ? Parce que soit ils sont accusés de ne pas s'occuper suffisamment de leurs enfants, alors que de leur point de vue, c'est un mauvais procès. Accusé de démissionner, de se désintéresser de l'école, alors que justement ils sont dans une attitude de survalorisation qui explique leur retrait, leur mise à distance pour ne pas troubler l'action scolaire. Ou bien à l'inverse, ils sont accusés d'en faire trop. Trop de pression, trop de travail inutile, des exigences outrancières qui nuisent. Dans les deux cas, ils se trouvent disqualifiés. Voilà le premier petit propos que je tenais à vous présenter. Alors, ne sachant pas ce que développer la journée d'hier, il est possible que ça vienne croiser, chevaucher, redire des choses que vous avez déjà abordées. On pourrait peut-être convenir d'un premier petit temps d'échange, de questions, s'il y en a.